Bonjour, pour ce premier épisode de Parents Numériques, on vous dit comment naviguer sur Internet et comment envoyer des mails de manière saine. Bonne émission! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Parents Numériques. Parents Numériques, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, bonjour à tous, bonjour, bonjour Pierre, mon co-animateur.
Bonjour.
Comment ça va ?
Pas mal.
Parents Numériques, voilà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast audio pour, comme son nom l'indique, pour les parents, mais pas seulement, pour les gens qui vont se reconnaître dans cette description, c'est-à-dire, en fait, tous les gens qui se sentent un petit peu perdus face à la pratique numérique d'aujourd'hui, à la pratique numérique de leur enfant, ou à la pratique numérique en général. Et en fait, cette émission, elle existe d'un constat qu'on a fait un peu chacun dans notre coin, mais sur lequel on est assez d'accord, c'est-à-dire que beaucoup de parents encore aujourd'hui nous disent, parce que bon, on est enseignants tous les deux, et nous disent moi mon enfant il est né avec ça, il sait l'utiliser, voilà. Alors oui et non, déjà, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais déjà, quand on nous dit, moi, mon gamin, il est né avec, il sait l'utiliser, c'est pas forcément vrai. Enfin, c'est même rarement vrai.
Non, ma fille qui a 18 mois, elle sait rien l'utiliser encore. Il va falloir que je la forme, c'est sûr.
Ouais, voilà. Mais en fait, beaucoup de parents croient ça à tort. Et donc, cette émission, elle est...
Ailleurs aussi, d'ailleurs.
Elle est née pour ça, pour vous aider, vous qui vous sentez un peu perdu, à y voir un peu plus clair et même à apprendre à vos enfants, si ce n'est à vous-même, à apprendre à vos enfants ou vos nièces, vos neveux, enfin qui vous voulez, même à votre mamie si vous voulez, comment vous en sortir, comment y voir clair et comment bien utiliser le monde numérique d'aujourd'hui. Alors ça va être très très vaste. Il va y avoir un épisode tous les deux mois. On n'est pas un podcast à vocation de suivre une actualité débordante et trépidante, mais de vous donner un guide pour que vous ayez le temps de pratiquer, le temps d'essayer. Et c'est pas quelque chose qui va durer forcément dans le temps. Une fois qu'on aura fait le tour, on aura fait le tour et le podcast s'arrêtera. Il n'empêche que de temps en temps, je pourrais faire, alors si Pierre est dispo à ce moment-là, mais je pourrais faire des petites émissions flash tout seul s'il y a une actu brûlante à couvrir, genre une petite app de réseaux sociaux qu'il faut absolument éviter ou quelque chose de très rapide comme ça. Je ne m'interdis pas, on ne s'interdit pas de faire ça. Donc voilà, ça c'est à peu près le pitch du podcast, à quoi on va servir, et voilà. Donc j'espère que vous y trouverez votre compte. Si vous n'êtes pas concerné par cette description, mais vous connaissez peut-être des gens qui sont votre mamie, votre tonton, je sais pas. C'est le moment aussi de leur faire découvrir ce que c'est qu'un podcast et d'avoir une nouvelle ressource pour pouvoir s'y mettre. Voilà, je pense que la description. Je pense que de n'avoir rien oublié.
Oui, c'est forcément un peu vaste au début.
Voilà. Donc, l'émission va se décomposer en trois parties. Une partie news, où on va traiter de ce qui fait l'actualité de la vie numérique, et notamment une grande partie sur les réseaux sociaux, parce que c'est une grande partie de la vie numérique, mais pas que. Un dossier, donc ce mois-ci, ça sera, on va reprendre les bases, Internet et les mails, les bons et les mauvais usages d'Internet et les mails. Et une dernière partie, s'il y a lieu de la faire, de questions d'auditeurs. Donc pour le premier épisode, évidemment, il n'y en a pas. Donc voilà, alors passons aux news. Alors les news, moi j'ai relevé trois petites news, on va commencer léger. Hein. Tout d'abord, une app, vu que les adolescents sont de plus en plus avec une tablette dans les mains, avec un smartphone ou une tablette dans les mains, je me suis dit, commencer avec une app smartphone et tablette, ce serait pas forcément mauvais. Cette app, elle s'appelle SnapSchool. SnapSchool, c'est, c'est sobrement sous-titré, fais mes devoirs, je fais les tiens. À la base, ça part d'un bon sentiment. Ça se veut construire une communauté d'entraide entre élèves. Moi j'ai des devoirs à faire, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider ? Ça part d'un bon sentiment. De plus, on crée notre compte et on peut poser trois devoirs qu'on n'arrive pas à faire. au-delà, il va falloir gagner le droit de poser des devoirs supplémentaires. Alors, sous forme de points, je ne sais plus. Mais il va falloir gagner ce droit. Et ce droit, on l'obtient en aidant les autres qui ont posé également des devoirs.
Ouais. L'as-tu vu utiliser
Alors, non. Bah, j'ai essayé, moi, de voir un petit peu ce qu'il y avait dessus. Je me suis créé un compte. Et alors, déjà, on est bien chez les jeunes. Hein. Là, on va dire deux tiers des devoirs qui sont posés. On a une photo de la page avec, on va dire, trois exercices dessus. Et on nous dit, j'ai ça à faire pour demain. On sait pas quel exercice, machin. Donc voilà. Donc, bon, alors déjà, ça manque d'être bien rangé, bien machin. Maintenant, quand quelqu'un aide un autre quelqu'un, eh bien, c'est généralement. Alors, je vais simplifier à l'extrême. Il y a quelqu'un qui poste. Voilà, j'ai 2 plus 2 plus 2 à faire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et quelqu'un va dire, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Et voilà, c'est tout. Il va pas expliquer la démarche qu'il y avait derrière. Il va juste donner la réponse. Ça va être validé et du coup, ça va lui. Enfin, si le demandeur valide la réponse, du coup, ça va lui apporter des points pour pouvoir.
Mais qui valide les points? Il y a un modérateur.
Oui, alors il y a donc la personne qui reçoit la réponse valide la réponse ou pas, et il y a aussi une modération qui se fait, on va dire une méta-modération pour gérer les abus, les gens qui s'arrangent entre eux, etc. Donc il y a quand même une certaine modération, mais il y a une modération au niveau du principe de fonctionnement. Il y a pas de modération. Enfin, il y a une mini modération qui est plus arbitraire au niveau de l'exactitude des réponses apportées et absolument pas au niveau de la méthode de la réponse apportée. Donc voilà, ça part d'un bon sentiment, mais je suis pas certain en fait que ça aide vraiment. Les élèves qui utilisent ce genre de choses. Perso, j'en ai pas vu au boulot.
Est-ce que ça remplace les forums? Est-ce que les élèves ont une habitude d'utiliser les forums? Je ne sais pas, en fait, au final. Si nous, il y a quelques années, on était plutôt apte à se lancer dans ce genre de plateforme, mais parce que finalement, quand tu posais une question sur Internet, tu pouvais aussi, grâce à ces forums, avoir une réponse assez rapide.
Exact, ouais.
Là, la question de l'utilité.
Là, en fait, ça reprend le nom, il y est pas pour rien. Hein. SnapSchool, ça prend Snapchat.
Le côté
quoi.
Éphémère.
Voilà, le côté du tac au tac. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie parce qu'il y a une belle philosophie derrière qui est faite par les développeurs, etc. Mais dans les faits, non. Dans les faits, c'est tiens, je te donne la réponse et puis voilà, c'est marre.
Tu peux en dire plus sur les développeurs, du coup, c'est qui
Alors, les développeurs, je les ai pas là. Ils ont
c'est
fait.
C'est français. C'est
non, non, je crois. Non. Je sais même plus. Mais je sais qu'ils en sont pas à leur galop d'essai. Ils ont fait pas mal d'applications dans ce style-là, à chaque fois autour de l'éducation, enfin autour de l'apprendre, pas forcément d'éducation. Je les ai pas tout testées forcément, mais ça va du brevet au bac avec des écoles d'infirmiers, sur le marketing, etc. Généralement, quand ça touche les plus vieux, les moins jeunes, on a quelque chose de plus structuré, de plus qui s'autogère beaucoup plus, tandis que là, typiquement sur celle-là, voilà, ça, moi, enfin perso, ça m'a fait tiquer.
Bien.
Voilà, donc ça c'était pour commencer. Ensuite, une petite étude que j'ai glanée sur le net, sur les réseaux sociaux, histoire de faire un prologue aux réseaux sociaux dont on va faire moult dossiers. En fait, c'est les réseaux sociaux par tranche d'âge et pas tous les réseaux sociaux, il y a Snapchat, Vine, Tumblr, Instagram, Twitter, Google+, Facebook, Pinterest et LinkedIn, même LinkedIn. Et sans surprise, chez les 18-24 ans, donc on n'a pas de stats pour les plus jeunes, mais de 18-24 ans, c'est Snapchat qui arrive grand vainqueur avec 45%. Sachant que, quand même, les 18-24 ans sont 14% quand même à utiliser LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un réseau social professionnel et uniquement professionnel. Donc, ça me laisse un petit peu d'espoir la bonne utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Mais là encore, on n'a pas de statistiques avant 18 ans.
Mais... Ce qui est assez intéressant aussi dans ce graphique-là, c'est de constater quand même que Facebook et Twitter sont assez bien répartis au niveau des tranches d'âge, je trouve. Enfin,
ouais.
Ce qui veut dire que c'est encore... Enfin, surtout Facebook, je pensais que c'était un peu plus ringard que ça à notre époque, que c'était déjà un peu dépassé. Et au final, ça reste très utilisé, quoi, en général.
Ouais, mais je trouve que là encore, pour revenir sur la tranche 18-24, Facebook, 16%, c'est pas beaucoup. Et,
non, parce qu'il y a le côté.
Voilà, je pense que Facebook tombe en désuétude au niveau des jeunes.
Bah, bien sûr, parce qu'ils savent que leurs parents déjà sont sur Facebook. Donc, ça, c'est l'argument ultime pour pas les suivre. Mais je pensais que justement, ça allait se confirmer. Et j'ai pas cette impression-là, au fur et à mesure. Certains, même pour questionner certains élèves, si en sixième ils n'ont pas leur compte, très vite ils cherchent à s'en créer un et je vois pas la fin de Facebook tout de suite. En fait.
Sachant que en sixième, quand un élève rentre en sixième, il a entre 11 et 12 ans.
Et il n'a pas le droit théoriquement.
Voilà, il n'a pas le droit d'utiliser Facebook puisque Facebook c'est à partir de 13 ans. Enfin, tous les réseaux sociaux sont à partir de 13 ans.
Et Twitter aussi, c'est indiqué dans les pour s'inscrire.
De mémoire, oui. Alors après, j'ai pas les dernières si j'ai eu en tête, mais de mémoire, n'importe quel réseau social, c'est 13 ans minimum en France. Hein,
oui.
En France.
Oui, oui.
Donc voilà, sachant aussi que Twitter, il y a aussi une spécificité, c'est les usages pédagogiques de Twitter qui se développent à une vitesse incroyable depuis presque un an, avec les tweetés, les tweets classes, et on aura l'occasion de revenir dessus.
Oui, mais j'ai vu ça aussi, mais du coup, je peut-être modère encore un peu ce que tu dis, parce que pareil, Facebook, il y a quoi, 4-5 ans, j'ai assisté aussi à des formations où on nous conseillait et on nous apprenait à utiliser Facebook en classe, un peu comme Twitter maintenant. Alors, j'ai l'impression que ça s'est essoufflé et que Twitter, ça va peut-être être aussi un effet de mode qui va peut-être passer. Je ne sais pas.
Oui, écoute, moi, j'ai jamais eu ces formations pour Facebook, mais j'ai perçu à travers les médias une émulation pour Twitter que j'avais jamais perçue.
Oui, puis c'est pas inintéressant, c'est Facebook. Vrai, d'utiliser la tweetée. Là, ouais. Je trouve ça assez passionnant à utiliser. Il y a des collègues qui le font et qui arrivent à motiver leurs élèves et à les faire progresser avec.
Donc voilà, donc si vous voulez retrouver ce petit graphique, c'est dans les notes de l'émission, il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur la news correspondante et vous aurez accès à ce tableau. Dernière news, et pas des moindres, le 17 septembre, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, le 17 septembre, oui, le gouvernement français a lancé en grande pompe la grande école du numérique. Ça faisait un petit moment que le gouvernement français n'avait pas fait d'étincelles en matière de numérique parce que on commençait sérieusement à être à la traîne. Il y avait la French Tech qui était apparue. Donc la French Tech, c'était un label pour dire qu'on est pour dire que si on était dans la French Tech, on était une sorte de Silicon Valley, donc de pointe de la technologie de la tech en France. Mais à part ça, il n'y avait pas grand chose, et notamment pour l'école, on a eu des annonces à coups de tablette, mais ouais. Mmh.
Si, toujours des budgets qui allaient être alloués pour acheter du matériel. Oui, ça, voilà. Quand même, y a toujours.
Voilà, mais tout le monde sait que le matériel, s'il n'y a pas les gens derrière, ça sert à rien.
Non, mais le ministère de l'Éducation communique depuis ce gouvernement-là, forcément très souvent là-dessus.
Ouais. Et donc là, en fait, le gouvernement crée une sorte de label. De label qui est donc la grande école du numérique. Labels que vont pouvoir acquérir certains établissements d'études supérieures. Il n'y a que les études supérieures, il me semble.
Oui, mais c'est assez flou, hein, en fait. Et ça, c'est si vous allez déjà vous renseigner sur juste qu'est-ce que c'est que l'école du numérique. Déjà, on pourrait penser que c'est un plan de mise en place de matériel, alors que non. Et c'est assez obscur, finalement, de savoir concrètement ce que c'est.
Voilà. Et donc, c'est des établissements qui existent déjà, hein. Qui existent déjà, qui auront ce label et qui pourront proposer des formations, visiblement.
Oui.
Des formations qui peuvent, avec une durée variable, et à la fin de ces formations, l'élève sera labellisé diplômé de la grande école du numérique ou quelque chose du genre. Oui, c'est bien. Surtout que l'accent est mis aussi sur le non-élitisme du dispositif. Donc, y rentrera ceux qui y rentreront. On nous promet 10 000 diplômés par an. Oui, enfin, bonne initiative.
Une sorte de CFAN, Centre de formation pour apprentis numériques.
C'est... Encore un acronyme de l'éducation nationale, merci.
Ouais, ça va arriver, c'est sûr. Donc, il y aura des maîtres d'apprentissage autour du numérique, et du coup des profs que autour du numérique. Enfin, ouais.
Mais et en fait, cette idée-là viendrait, parce qu'on ne peut, on ne peut que supposer, encore d'un dispositif privé qui est l'école 42,
oui,
de Xavier Niel, qui commence à devenir un modèle en termes de formation numérique. Et voilà, bah, maintenant le gouvernement fait ce qu'il peut pour essayer de combler le fossé de vitesse que prend l'école 42, qui se développe à une vitesse phénoménale. Donc l'école 42, je rappelle, c'est une école un peu particulière qui pour l'instant n'a pas de diplôme officiel français, mais qui forme des élèves dans le monde du numérique, et ces élèves sont des sortes d'autodidactes du numérique qui peuvent témoigner d'une certaine pratique au niveau qualité dans le numérique, que ce soit sur la programmation, que ce soit dans le développement, et du coup c'est une sorte d'école autogérée qui produit pour le coup des très très grosses pointures du numérique.
Mais ça, la référence à ce monsieur, pour certains collègues qui n'en ont pas encore entendu parler de cette école du numérique et qui voudraient se renseigner, va sûrement faire hérisser le poil. Bon, parce que se référer comme ça à cette pratique-là et à ce monsieur, bon, c'est pas très bien vu dans notre milieu, très certainement.
Exactement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Xavier Niel, c'est le patron de chez Free. Donc, oui, si t'avais quelque chose à rajouter.
Non, juste j'ai lu une blague sur le net il y a peu en disant que, c'était le Gorafi, je crois, au moment où on a soi-disant trouvé de l'eau sur Mars, disait qu'on avait trouvé du réseau mobile sur Mars Free. Voilà. C'est vous dire si la référence à Free est bonne pour ce genre de pratique.
Ouais.
Mais son école, moi aussi j'avais quand même été renseigné un peu sur l'école 42 là, et effectivement c'est pas, tout n'est pas acheté, loin de là. Fin...
Ah non, oui. Rien que le nom de l'école pour les plus geeks qui nous écouteront, même s'il n'y en a pas beaucoup.
Qui nous écouteront ou qui, qui connaissent
qui nous écoute. 42, ça fait référence au guide intergalactique, H2G2, le Hitcher Guide. J'ai plus le nom précis. Et en fait, le 42, c'est la réponse à la grande question de l'univers.
Ah bon.
Voilà. Et bien voilà pour les news, c'est tout, et donc maintenant passons au dossier. Alors on va décomposer ce dossier en deux, donc internet et les mails, les bons et les mauvais usages. Alors en ce qui concerne, j'ai peut-être envie de faire les mails d'abord, parce qu'il y a des choses qui découlent après sur le web. Donc les mails, décomposons un mail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des mails et il y a beaucoup de personnes qui pourrissent franchement la boîte mail des autres, et sans le faire exprès, avec la meilleure, ils ont la meilleure volonté du monde, mais ça pourrit la boîte mail. Moi l'an dernier j'ai passé une année horrible à cause de ça, parce que j'étais sur deux établissements et voilà, les gens savaient pas utiliser les mails. Donc d'abord les mails, c'est tout bête, hein. On prend son navigateur, son application de courrier électronique, où on peut même aller sur un navigateur pour aller lire ses mails et pour en envoyer. Et là, vous avez, quand vous créez un mail, quand vous écrivez un mail, vous avez plusieurs champs à remplir. Donc, typiquement, on ne remplit que le champ A, donc, ou destinataire, ou voilà, et en mettant une adresse mail, @voila.fr. Je voulais pas faire Free parce que voilà.
Caramel.fr.
Oui, caramel. Voilà. typiquement voilà. Bon, après dans objet on met les photos de vacances de mémé, et dans le mail on écrit voilà mémé en maillot de bain. Voilà.
Par contre, ce qui est pas mal, moi je trouve, c'est quand même de mettre aussi un petit conseil basique, d'écrire le destinataire à la toute fin. Même si le champ A est en premier, parce que ça m'est peut-être arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé plus d'une fois, toi aussi, Jean, de lancer ton mail alors que tu n'as pas fini de l'écrire.
Non.
Je suis jamais arrivé.
Non.
Ah bien,
non,
bon, alors...
Il m'est arrivé bien des trucs de par étourderie, mais ça.
Mais
non,
du coup, ça évite de l'envoyer. Voilà.
Si, typiquement, si quand on met une pièce jointe, et, enfin quand on veut mettre une pièce jointe et qu'on oublie de mettre une pièce jointe.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Alors ça, oui. Oui, non, mais ça, je le fais pas, tu vois.
D'accord. Mais bon, ça évite de le faire si des fois ça t'arrivait de finir son mail par écrire le nom du destinataire.
Voilà. Quand vous écrivez un mail, surtout si c'est un mail professionnel, faites au plus court. C'est pas la peine d'écrire un roman parce que quand c'est un mail professionnel, aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à les recevoir sur nos smartphones et on n'a pas envie de passer 3 heures à lire un mail. Donc, oui, il faut mettre les formes à un mail, faut pas dire salut coco à son boss, mais voilà, bonjour, 6 juin, veuillez trouver la liste des personnels en attente de validation, cordialement, machin, et voilà, soyez vraiment précis, concis, presque comme si vous écriviez un texto. La tendance aujourd'hui, c'est ça, quand on écrit un mail professionnel, un mail personnel, on peut étaler sa vie à sa mère, à sa mamie, voilà, ils seront très contents d'avoir un mail qui fait 27 lignes. Mais sinon, non, soyez concis, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas. Donc voilà, ça serait le premier conseil de mail, on va dire, mono-destinataire. Ensuite, vous pouvez envoyer des mails à plusieurs personnes. Donc dans ce cas-là...
On peut, vraiment ?
Oui, on peut, plutôt que d'envoyer 36 mails à la suite.
C'est possible ? Mais comment fait-on ?
Alors, vous avez deux choix, soit vous êtes quelqu'un qui n'est pas très organisé, et dans ce cas-là, dans le champ destinataire, bah, vous mettez tous vos destinataires. Alors, je dis pas organisé, pas forcément, hein, c'est juste... en fait, ça fait passer un message. Donc, vous avez les deux premiers champs, qui sont le destinataire, et en dessous, vous avez le champ CC. Donc, qui veut dire que c'est une copie de mail qui va être adressée aux gens qui vont être là-dedans. Donc, ça permet aux gens qui le reçoivent de savoir à qui le mail est adressé au départ pour dire, voilà, nous, on a une copie de ce mail, mais il est adressé à telle personne au départ. Après, si toutes les personnes sont sur le même pied d'égalité, si vous envoyez un mail à tonton, tata, papy, mamie, vous les mettez, voilà, il n'y a pas d'ordre d'importance.
Je vois des sourcils qui se lèvent et des yeux écarquillés en se disant oh, « Mais c'est donc ça, c'est. » Depuis le temps, je ne savais pas.
Ben voilà. Donc, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on peut le faire dans le destinataire, mais disons que là encore, au niveau professionnel...
Oui, c'est quand même assez utile. Voilà. En tout cas, de savoir que le mail à la base ne nous est pas adressé directement, c'est pas un champ inutile du tout.
Exactement. Et maintenant, il y a un troisième champ qui s'appelle CCI. Et le CCI, moi je l'aime beaucoup celui-là, mais très peu de gens l'utilisent. Et en fait, quand les gens l'utilisent, vous le savez même pas.
Voilà.
Parce que dans CCI, quand vous avez un mail à envoyer à 50 personnes, mais vous ne voulez pas que les 50 personnes connaissent le mail des 49 autres. Donc là, ça va permettre, en fait, c'est la même fonction que CC, sauf que les adresses vont être masquées, vont être cachées. Et il n'y a que vous. Dans l'entête, vous ne verrez que votre adresse, et ça, c'est bien pratique quand on veut éviter la panacée des gens qui, pour répondre à un mail, appuient sur répondre à tous.
Horrible dans les listes de diffusion professionnelles, les gens qui répondent à des messages et qui remettent du coup tout l'historique des messages précédents, ça c'est vraiment affreux, oui.
Voilà, et donc quand on est dans une petite structure, par exemple on est 15, bon ça va, il y a 15 personnes qui vont recevoir le mail, c'est pas dramatique, mais si les 15 commencent à répondre aux 15 autres et qui commencent à répondre aux 15 autres et ainsi de suite, on a vite un nombre de mails qui va exploser. Mais imaginez le cas où on est dans une entreprise, je sais que c'est arrivé il y a pas très longtemps, je crois que c'est au Huffington Post, il y a quelqu'un qui a fait répondre à tous. Et il s'est fait incendier parce que voilà, il a envoyé des milliers de mails en appuyant juste sur un bouton. Pensez-y, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a fait pourrir mon expérience l'an dernier. Donc, j'étais sur deux bahuts et sur mon deuxième bahut, en fait, répondre à tous, il n'y avait que ce bouton-là qu'ils connaissaient. Et j'avais des mails, alors déjà les mails professionnels et les mails perso qui se mélangeaient. Et j'avais des mails qui, oui, je vais en Savoie, qui est-ce qui veut que je lui ramène du boudin et du fromage ? Alors, moi je m'en fiche, hein. Ok, je le reçois.
Mais si t'avais eu envie de boudin et de fromage, t'es content.
Oui, non mais ok, je le reçois, très bien. Mais maintenant, il y a les autres collègues qui font répondre à tous. Moi, je veux, s'il te plaît, j'aimerais 2 tomes de fromage et 50 kilos de boudin. Et après, je sais que l'autre veut aussi 50 kilos de boudin, mais pas de fromage. Et ainsi de suite. Et c'est infernal, c'est infernal. Donc surtout, quand vous répondez à un mail, c'est répondre. C'est pas répondre à tous. C'est rare quand même quand on a quelque chose à faire de la réponse de quelqu'un d'autre à une question qui nous est posée à nous. Voilà. Le dernier petit conseil sur les boîtes mail, c'est trier vos mails. Essayez autant que possible de faire la part des choses entre le perso et le professionnel. Dans le meilleur des cas, vous utilisez une adresse perso, une adresse pro. Dans le pire des cas, vous faites des dossiers à l'intérieur de votre boîte mail. C'est pas très compliqué, mais il vaut mieux avoir une adresse pro et une adresse perso. Ouais. Ça évite de mélanger les choses.
C'est presque un conseil indispensable à donner d'avoir au moins 2 adresses mail, mm-hmm. parce que déjà une peut servir quand vous vous inscrivez sur des sites commerciaux pour ne pas que votre adresse que vous utilisez le plus souvent soit justement infectée de pubs ou ce genre de choses. Voilà, c'est un conseil que je pense il faut donner, ne pas avoir qu'une seule adresse mail.
Voilà, donc ça c'est l'utilisation des mails. Alors là encore, maintenant, vous savez à peu près utiliser les mails. Maintenant, qu'est-ce qu'on va y envoyer ? Donc, pour les mails pro, je vous ai dit, limité, le minimum, machin. Maintenant, pour les mails perso, je reviens sur le tri, il va vraiment falloir faire un tri parce qu'il y a 2 types de mails qui sont absolument horribles pour une boîte mail saine. Ce sont ce qu'on appelle les pourriels, donc tous les spams, les pubs, etc. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument ne pas donner son adresse où que ce soit, ou alors justement créer une adresse mail poubelle dans laquelle tous ces mails vont arriver. Parce qu'on a besoin de s'inscrire sur un site et voilà, mais on veut pas recevoir les mails publicitaires. Donc vous avez une adresse mail poubelle sur lequel tout va arriver et votre boîte aux lettres, votre boîte mail va s'en comporter vachement mieux. Même si aujourd'hui on a des filtres qui filtrent assez bien les spams et tout ça, c'est pas encore automatique et des fois on a des mails importants qui arrivent dans les spams et voilà. Donc une adresse mail pourriel, c'est très bien. Et la deuxième chose, ce sont les hoax. Qu'est-ce que c'est un hoax?
J'allais vous poser la question, très cher.
Un hoax, c'est typiquement le genre de mail que vous envoyez à vos amis en pensant bien faire. C'est une fausse information. Typiquement, il y a celle qui a beaucoup circulé, que j'ai reçue au moins 5 fois dans une période de 4 ans. C'est celle des limitateurs de vitesse qui nous font faire de l'aquaplaning parce que il paraîtrait que quand la voiture commence à faire de l'aquaplaning ou de l'aquaplanage en français, le limitateur de vitesse se met à emballer la vitesse de la roue et vous faire perdre totalement le contrôle de véhicule et avoir un accident. Mais si, c'est vrai ma bonne dame, puisque c'est machin qui l'a dit. Attendez, vérifiez l'information avant de les relayer à toutes vos connaissances et de dire si tu ne partages pas ça, tu seras maudit sur 10 générations. Il y a un site qui s'appelle hoaxbuster.com, hoaxbuster.com, et là c'est hyper pratique. Vous prenez un bout du mail que vous avez reçu, que vous pensez être une information qui peut aider les gens, ou une alerte à un virus, ou je sais pas quoi. Donc vous prenez un petit bout du mail, vous le copiez, vous le collez dans la recherche. Il y a un champ de recherche sur la colonne de droite, vous le collez dans le champ de recherche, et là, à 95% du temps, il va vous trouver le mail, l'information, et il va vous dire si effectivement c'est vrai ou si c'est une désinformation. Et si c'est une désinformation, il va vous dire pourquoi. Et ça, c'est bien. Donc voilà. Voilà, un outil de plus. Et Hoaxbuster, mettez-le dans vos favoris. Vous avez sur n'importe quel navigateur, vous avez fait, dans le menu favoris, vous pouvez ajouter cette page aux favoris mettre une petite en étoile. Et voilà, celui-là, c'est un site à garder. Passons à la navigation web. La navigation web, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour bien naviguer sur Internet ? Bien naviguer sur Internet, ça veut dire naviguer en sécurité. Et naviguer en sécurité, ça veut dire ?
Avoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut ?
Il faut un mot de passe.
Oui, bien sûr.
Un mot de passe Alors, les mots de passe, ça va peut-être vous paraître très bête.
Oui, parce que vous l'avez peut-être déjà lu plusieurs fois.
Voilà, mais on ne le dira jamais assez, puisqu'il y en a encore beaucoup. Il ne faut pas mettre A-Z-E-R-T-Y.
Non.
Il ne faut pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne faut pas mettre l'inverse, là, P-O-I-U-Y-T. Ne faites pas ce qui est logique sur un clavier.
Oui, ce que je lisais justement, que c'était encore quasiment les mots de passe les plus utilisés.
Oui, voilà, et c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6 AZERTY et inversement, ça fait ils sont encore dans les top 10 des mots de passe les plus utilisés.
Ces gens-là doivent être dans les top 10 les gens les plus piratés.
Voilà, exactement. Donc voilà, alors typiquement moi j'ai un truc alors qui commence à ne plus être forcément d'actualité, mais c'est encore beaucoup mieux que AZERTY et compagnie, c'est de vous faire une phrase clé avec tous les mots attachés, et chaque début de mot va commencer par une majuscule. Et par exemple je vais m'inscrire sur Yahoo, et mon mot de passe ça va être je suis inscrit sur Yahoo. Et donc, c'est Yahoo qui va changer. Si je m'inscris sur babybel.com, donc je mettrai « Je suis inscrit sur Babybel ». Et vous avez une phrase clé qui change à chaque site. Et du coup, vous connaissez le principe de base de votre phrase clé. Il faut juste mettre le nom du site derrière. Alors, mettez-le derrière, au milieu, devant, voilà.
Et l'intérêt de s'inscrire sur le site de Babybel, on a des cadeaux
ou Je sais pas, je me suis jamais inscrit sur le site de Babybel.
Je pensais qu'il y avait des choses intéressantes.
Non, mais
à savoir.
Tu peux déjà te faire un nez rouge avec les emballages de Babybel.
Ah, oui, certes.
voilà, donc ça déjà, ça commence par ça. On vous dit de jamais mettre le même mot de passe sur deux sites différents. C'est très difficile à faire, mais avec cette petite astuce, ça permet au moins d'avoir ça. Il y a d'autres trucs, mais déjà celui-là, retenez celui-là et ça sera déjà pas mal.
Oui, puis peut-être de rajouter un chiffre, peut-être,
oui,
par
voilà.
Exemple la date au moins de l'année, soit mettre 15 si c'est en 2015, pour rajouter, ouais, un peu de difficulté. C'est toujours conseillé,
voilà,
de
c'est ça.
Mettre un chiffre.
De toute façon, en règle générale, plus votre mot de passe est long, plus il est sécurisé. Plus il y a de types de caractères différents, c'est-à-dire majuscule, minuscule et chiffre, plus il est sécurisé. Ensuite, si vous avez des enfants, vous avez forcément entendu parler du contrôle parental. Le contrôle parental a ce magnifique dispositif qui fait que on n'a plus besoin de surveiller nos enfants derrière son écran.
Non. As-tu 18 ans ? Oui. Non. C'est tout. C'est...
Voilà. Alors, donc il y a des logiciels qu'on peut installer et qui contrôlent quand même pas mal les choses. Mais ne vous leurrez pas, hein. Un contrôle parental, d'une, ça ne contrôle jamais tout. Et de deux, nos enfants sont bien assez intelligents pour essayer et réessayer jusqu'à ce que ça marche. Donc, le meilleur contrôle parental qui soit, et alors c'est pas moi qui le dis, c'est des gens avec qui j'ai pu discuter, des gens, des témoignages que j'ai pu lire et recueillir. Le meilleur contrôle parental, c'est le parent. C'est le parent, et c'est pas le parent qui va forcément tout interdire, c'est le parent qui va expliquer ce qu'on va y trouver sur Internet. De sorte que la curiosité de votre enfant ne soit plus éveillée à dire ah ouais, je vais chercher ça parce que c'est interdit et je sais pas ce qu'il y a dessus. Ben non, comme ça, il sait déjà ce qu'il y a dessus. Et de toute façon, de manière générale, ne jamais laisser un enfant avec un ordinateur tout seul. À moins qu'il ait au moins 16 ans, enfin voilà.
Oui.
Mais pas d'ordinateur dans la chambre. Non, 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 ce n'est pas bien.
Non.
La publicité. Alors la publicité, vous avez peut-être, si vous avez une utilisation un petit peu avancée de la navigation web, ce qu'on appelle des ad blockers, parce que la publicité sur les sites internet, il y en a partout.
À foison, oui.
Il y en a partout. Et il y a des petits logiciels qu'on rajoute sur son navigateur qui s'appellent Adblock et qui du coup suppriment la publicité des pages internet. Mais c'est formidable, mon bon monsieur.
C'était notamment formidable quand on avait... Enfin, je pense que les gens s'y sont mis au moment où ils écoutaient de la musique comme Deezer, pour ne pas la citer. Mmh. Et c'était effectivement très pénible d'écouter un morceau et même parfois d'être coupé au milieu de l'écoute de son morceau par une publicité sonore. Donc quand personnellement j'ai appris que ce logiciel existait, ça m'a un peu changé la vie pour mes écoutes musicales.
Voilà, et moi, je n'ai jamais installé d'Adblock. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas ça, moi? Parce que j'ai envie de croire encore en une utilisation de l'Internet responsable. Si vous utilisez Adblock et que vous aimez bien un site, un site de quelqu'un, on va dire, qui collectionne les papillons, un petit amateur qui collectionne les papillons et qui, pour rentabiliser un peu sa passion, bah, du coup, met des publicités sur son site parce que il se dit, bah voilà, si je le donne à voir à tout le monde, si je me prends un site internet, parce que faire un site internet, c'est pas gratuit, hein. Donc voilà, et ben, il va mettre des pubs pour pouvoir rentabiliser son site. Et bien, si vous bloquez sa pub, eh bien, il n'est plus payé. Et c'est là que le bas blesse. Et donc, tous ces adblockers, en fait, font leur chou gras sur non pas la suppression de la pub, mais la réintégration de la pub. Parce que maintenant que les adblockers sont bien installés chez nous, eh bien, les annonceurs vont payer les sociétés d'adblockers pour qu'ils laissent passer leur pub. Mm-hmm. Et voilà comment les adblockers font de l'argent et comment le pied d'égalité d'Internet se retrouve complètement floué.
Les sociétés publicitaires, et ça tu me l'apprends, ont donc la possibilité de savoir si les internautes utilisent un adblocker quand ils vont visiter le site, par exemple, du gars avec ses papillons.
C'est un peu plus insidieux que ça. Ils ont la possibilité... Enfin, oui.
Est-ce qu'on pourrait penser que le gars avec ses papillons a ses publicités et au final n'a pas vraiment la maîtrise de savoir si moi, en tant que visiteur de son site...
Parce que quand on crée un site, on a à notre disposition les statistiques du site, c'est-à-dire le nombre de visiteurs. Et quand on compare le nombre de visiteurs avec les recettes des publicités, on se dit, là, il y a un truc qui va pas.
D'accord.
Et donc là, on sait que... y a pas mal de gens qui utilisent Datblock et on voit le manque à gagner. Donc voilà, alors Adblock, après vous avez la possibilité sur certains adblockers de ne bloquer que des sites bien particuliers. Donc ça serait l'utilisation la plus judicieuse si vous voulez absolument utiliser un adblocker, c'est de bloquer les grosses sociétés qui n'en ont rien à foutre. Et voilà.
Le gouvernement actuel est un adblocker depuis 2012 sur la publicité après 20h sur le service public.
Oui, sauf qu'il se fait payer avec nous sur une redevance.
Certes.
Sur une redevance sur les abonnements Internet.
Ah oui, c'est ça. Donc il faudrait réfléchir à une autre, un autre financement de l'Internet.
Il faudrait même réfléchir à d'autres façons de faire de la pub.
Oui, aussi, oui.
Pour moins embêter les gens.
Oui, parce que quand même. Pour le défendre, parce que là, tu dis que tu l'utilises pas, ça peut parfois changer la vie en termes de visuel juste sur une page internet.
Ah oui, complètement.
Qui est parfois être juste pollué d'un tas de choses, de sons qui se mettent en place sans qu'on le veuille. Enfin, c'est juste l'enfer parfois.
Complètement, complètement. Ensuite, un sujet bien classique, les virus, spyware, adware, et je vais mettre les barres dedans aussi. C'est ce qu'on appelle les barres. Virus, spyware, adware, ce sont des petits logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, bien à votre insu. La plupart du temps, c'est facilement évitable. Il suffit juste de ne pas installer n'importe quoi sur son ordinateur. Quand vous voyez une fenêtre sur Internet qui dit « Vous avez un virus sur votre ordinateur !» Cliquez sur « OK » pour analyser votre machine et vous en débarrasser. Mais comment il le sait, le site, que vous avez un virus sur votre ordinateur ? Non, c'est juste pour cliquer pour installer un truc que vous ne voulez pas installer. Faites très attention à ce genre de choses. Quand un site internet vous propose quelque chose, alors généralement il y a un slogan qui est très bien, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc si vous avez un truc gratuitement, posez-vous des questions, il y a toujours une arnaque derrière ou quelque chose d'illégal. Et un site internet ne peut pas, sans votre accord, et encore c'est compliqué, ne peut pas analyser votre machine, savoir ce qu'il y a dessus, etc. Il peut connaître certaines informations, vos adresses IP, un petit peu de l'historique, mais rien de plus. Donc, ne croyez jamais un site internet qui dit que votre ordinateur a besoin d'être nettoyé, a besoin d'être optimisé, a besoin d'être antivirusé.
Et alors, quelle est la différence étymologique là, entre virus et puis la différence technique virus, spyware et adware.
Alors un virus va s'installer sur votre ordinateur et va faire des choses à votre insu, c'est-à-dire il va diffuser d'autres choses à d'autres ordinateurs ou il va induire
manger
une malfonction,
petit à petit,
induire une malfonction sur votre ordinateur, effacer vos données, etc. Et se propager à d'autres ordinateurs via par exemple les mails. Donc d'où l'importance de bien faire le tri dans ses adresses mail perso et voilà pour pas pourrir les boîtes mail de son patron par exemple. Les spyware, ce sont des petits logiciels, pareil, qui s'installent, mais qui, eux, vont espionner tout ce que vous faites avec votre souris et vos claviers. Donc, typiquement, c'est un logiciel qui va récupérer vos mots de passe.
C'est bien fait, hein, ce virus, on pense au virus, voilà, spy, espion.
Et adware, ad en anglais, ça veut dire publicité, et donc ce sont des petits logiciels qui vont faire apparaître de la pub, inopinément, des fenêtres comme ça, pour faire de la pub. Et c'est très, très, très pénible à gérer, parce que quand on en a un, après on en a deux, après on en a trois, et on a des milliards de fenêtres qui s'ouvrent, et on n'en sort plus. Et les bars, c'est les bars Google, c'est les bars Yahoo, donc c'est ces petites choses qui s'installent au-dessus de votre fenêtre de navigation et qui, quand vous en installez un certain nombre, font ressembler votre navigateur à un tank sur le dessus, parce que on ne peut rien y faire, il y a des milliards de boutons qui ne servent à rien, et pour les installer des fois c'est aussi très très pénible.
Pour les désinstaller.
Oui, pour les désinstaller, pardon. C'est très, très pénible. Généralement, ça se fait pas facilement. Il faut rentrer dans des réglages très profonds de l'ordinateur. Donc, le mieux, c'est quand vous installez un logiciel, parce que ces barres-là, elles s'installent avec des logiciels normaux, avec des logiciels sécurisés, sans virus. Mais normalement, si c'est bien légal, on vous propose toujours de l'installer ou pas. Donc lisez surtout, c'est très important.
Avant de cocher n'importe quoi.
Lisez à l'installation, lisez ce que vous installez. Et quitte à faire installation personnalisée, parce que généralement on fait installation simplifiée et on se prend pas la tête. Et non, installation personnalisée, et là vous décochez tout ce qui est bar machin, bar truc. Ça s'appelle toujours bar Google, bar Yahoo,
bar Tabas.
Donc voilà. J'espère qu'on a été clair. Donc voilà, on est à peu près dans les durées d'émission que je voulais. J'espère qu'on a été clair. Si jamais c'est pas le cas, dites-nous, renvoyez-nous vos retours. Dites-nous si vous avez des questions vous voulez qu'on traite sur l'émission numéro 2. L'émission numéro 2, on va commencer à parler des réseaux sociaux. Donc elle va intervenir, on est début octobre, donc c'est début décembre. On va parler des réseaux sociaux, du bon et du mauvais usage des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément le mal.
Et parlera-t-on de caramel ?
Je ne sais pas.
Ah,
je ne sais pas, je ne sais pas.
Je pensais être à la page.
Et donc voilà, si vous voulez retrouver donc les notes de l'émission, ça se passe sur parentsnumérique.fr, donc tout au singulier et sans accent s'il vous plaît. Et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, on a une page Facebook, on a une page Twitter, donc de Parents Numériques. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous écrire. Donc pour nous écrire, c'est jean@parentsnumérique.fr.
Moi j'ai un compte Twitter aussi, ouais. Si vous voulez voir, Pierre Coutant.
Et puis il y aura aussi une adresse, oui. pierre@parentsnumérique.fr.
Oui, ou alors sinon sur le Facebook, je peux aussi le consulter.
Voilà, exact. Ah oui, il faudrait que je te mette en co-animateur de la page.
Très bien.
Quant au générique de l'émission, il s'intitule Drive, il est fait par Taji Ito et vous le retrouvez sur le site newgrounds.com. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 mois et d'ici là, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Bonne pratique numérique à tous, veillez bien sur la pratique de vos enfants, restez vigilants et soyez un bon parent numérique.
Au revoir.
Ciao.